Bonjour à tous, vous écoutez Fréquence Mistral, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Louis, bonjour à tous.
Au sommaire de ce 75e numéro de Force 7, les vœux volontaristes de la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence, nous entendrons Eliane Bareille. Marie-Paul Demiguel est la nouvelle sous-préfète de l'arrondissement de Fort-Calquier, sa première interview pour Fréquence Mistral dans un instant. Les vœux de Daniel Spagnou à Sisteron pour 2023, le reportage de Chris Alessandri dans ce magazine. À La Brianne, c'est un maire et conseiller régional qui présentait ses vœux à la population, l'interview de Jean-Charles Borghini pour Force 7. Manosque, le réseau de confiance Unicité, met des jeunes en contact au service des seniors souvent isolés, le portrait de deux volontaires dans ce magazine. La capsule, scène des musiques actuelles de la MJC de Manosque, aborde 2023 en rythme et décibels. Nous entendrons Alice Jean, coordinatrice de la capsule de la MJC. Les vœux d'Eliane Bareille, volonté et dynamisme.
C'est ce qu'il ressort de cette cérémonie des vœux de la présidente du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence. Une première, car l'année dernière, la crise sanitaire avait empêché l'événement, privant les nouveaux élus d'une tribune et d'une soirée conviviale. L'hôtel du département accueillait de nombreuses personnalités pour cet exercice particulier pour lequel Eliane Bareille a consacré une bonne demi-heure. Un discours volontariste et positif que la présidente a communiqué au présent. Elle a annoncé des efforts importants concernant l'investissement, notamment pour les services d'incendie et de secours ou la gendarmerie ou bien encore le collège du Mont d'Or à Manosque, en tout 56 millions d'euros injectés dans l'économie locale. Pour le social, le département joue son rôle auprès des bénéficiaires du RSA, des personnes âgées ou handicapées et s'inquiète de la désertification médicale. Enfin, la culture et le sport ont aussi été mentionnés par Madame Bareille, mais le clou de la cérémonie fut l'hommage rendu au chef du 04, véritables ambassadeurs du département et de son art de vivre. Un numéro exceptionnel de la revue Masterchef a été consacré aux Alpes d'Haute-Provence et fut distribué à Digne. Un produit marketing réussi où producteurs locaux et magiciens des fourneaux ont toute leur place. Je vous propose d'écouter un extrait du discours d'Eliane Bareille où elle évoque un événement marquant de 2022 quand les acteurs du 04 sont montés à Paris au Salon de l'agriculture. L'opération a connu un grand succès et sera reconduite cette année. La présidente évoque donc l'agriculture et également le tourisme, mais d'abord, elle parle d'économie. Eliane Bareille.
Vous le savez, un département qui avance, c'est avant tout un département qui bénéficie d'une économie dynamique. C'est le cas des Alpes de Haute-Provence qui peuvent s'appuyer sur deux secteurs d'excellence, l'agriculture et le tourisme. Je veux profiter de cette cérémonie pour saluer votre esprit d'entreprise et le talent des acteurs économiques locaux. Vous êtes nombreux à être présents ce soir. Je suis ravie, j'ai rencontré le président de l'UDE, j'ai rencontré le président de la CCI et beaucoup d'entre vous. Donc un grand merci d'être présent ici ce soir. Je veux réaffirmer devant vous notre engagement à vos côtés. Alors que les vacances de Noël s'achèvent et que les congés de février approchent, je souhaite en particulier aux stations des Alpes d'Haute-Provence de réussir une belle saison d'hiver. Je sais qu'elle a bien démarré. Souhaitons qu'il neige rapidement pour que nous ayons une très très belle saison. Nous en avons bien besoin. Les enjeux sont élevés puisqu'avec 2,5 millions de nuitées générées, le tourisme hivernal est indéniablement l'un de nos points forts. Je forme donc le vœu que cette saison hivernale vienne confirmer cette tendance. Pour soutenir notre tissu économique, nous avons renforcé la part de l'investissement dans le budget du département. Ainsi, en 2023, nous prévoyons d'injecter plus de 56 millions d'euros dans l'économie locale. ce qui représente une hausse de 9,5% par rapport au budget 2022. Vous pouvez le constater, le conseil départemental demeure un acteur majeur de l'aménagement de son territoire, ce qui en fait également un des moteurs de l'économie locale au profit de nos entreprises. Et j'ai vu dans la salle, et que je les ai accueillis, un certain nombre d'entreprises du BTP. Donc je pense que cette année, vous allez être gâtés. Nous travaillons aussi à développer l'attractivité de notre département. C'est tout le sens de la démarche irrésistible Alpes de Haute-Provence, que nous continuons d'accompagner avec notre agence de développement 04, et je salue bien sûr son président et son directeur. Ensemble, nous avons initié un nouvel élan à l'échelle du département. Grâce à nos efforts conjugués, nous contribuons à une montée en qualité de l'offre touristique. Afin de poursuivre en ce sens, nous avons renforcé notre soutien à l'AD04 et nous continuerons de nous mobiliser en faveur des activités du tourisme, que ce soit au travers des manifestations promotionnelles, et on en a fait quelques-unes particulièrement réussies, notamment Montgolfiade cet été, ou en investissant dans des infrastructures destinées à valoriser notre patrimoine et nos paysages. L'autre pilier de l'économie départementale, bien évidemment, c'est notre agriculture. Dans un département rural et pastoral comme le nôtre, il est normal que nous soyons aux côtés de nos agriculteurs. Je tiens d'ailleurs à saluer le président de la Chambre, son directeur, et aussi le président de la FDSEA. Je crois que vous l'avez compris, nous serons à vos côtés et nous souhaitons être à vos côtés. Nous avons voulu que pour la première fois de son histoire, le département soit présent au Salon international de l'agriculture à Paris en 2022. Cette manifestation bien connue du grand public est une vitrine indispensable pour nos terroirs et nos savoir-faire en France et dans le monde. Le succès que nous y avons rencontré, grâce à quelques élus d'ailleurs parfaitement dynamiques pendant les journées du salon, ils se sont reconnus. Le succès que nous y avons rencontré a été d'une telle ampleur que nous n'avons pas hésité une seconde à reconduire cette opération. Les Alpes de Haute-Provence seront donc présentes une nouvelle fois au Salon de l'agriculture en 2023. Et cette année, le thème central, ce ne sera pas la lavande, ce sera l'olivier. C'est pour ça que vous trouvez des oliviers derrière nous. D'ores et déjà, j'adresse un grand merci à toutes celles et tous ceux, élus et collaborateurs, qui participeront à l'animation de notre stand. J'en suis convaincue, avec autant de dynamisme que l'an passé. Vous avez intérêt. Renforcer l'agriculture. C'est aussi encourager la consommation des produits locaux. C'est ce que nous faisons auprès des collégiens en proposant des produits issus de nos territoires dans leurs assiettes. Grâce aux référents circuits courts que nous avons recrutés, nous ferons en sorte que nos 19 collèges s'intègrent dans la démarche régale initiée il y a quelques années avec la participation de la région, monsieur le vice-président. Grâce à ce label, nous offrons de nombreux débouchés aux agriculteurs des Alpes de Haute-Provence, tout en garantissant une alimentation de qualité aux élèves.
Fort-Calquier, Marie-Paul de Miguel, sous-préfète expérimentée.
En poste précédemment à la sous-préfecture de Saint-Gaudens, en Haute-Garonne, Marie-Paul de Miguel a pris ses fonctions cette semaine dans la cité comtale. Après un dépôt de gerbes au Monument aux Morts, elle accueillait les participants pour une sympathique galette des rois dans ses murs. Une façon agréable de faire connaissance avec les personnalités de son arrondissement et une manière, pour ceux-ci, de cerner la nouvelle représentante de l'État. Cette arrivée en janvier lui permet de se rendre dans plusieurs cérémonies de vœux et accélère donc sa connaissance des acteurs locaux. C'est une haut fonctionnaire expérimentée qui, de l'Occitanie aux Vosges et aujourd'hui la Provence, a occupé plusieurs fonctions dans la préfectorale. Elle est également très au fait des questions liées à la ruralité, un autre élément qui lui sera utile dans le 04. Je vous propose d'écouter sa première interview sur notre radio, qui traduit déjà quelques aspects singuliers de sa personnalité. Marie-Paul de Miguel, vous êtes la nouvelle sous-préfète de Fort-Calquier. C'est un pays, un territoire, la Provence, que vous ne connaissiez pas.
Je ne connaissais pas la Provence, je n'y avais jamais mis les pieds, mais la Provence étant connue par la littérature, la réputation cinématographique, enfin bref, tous ceux qui sont venus en vacances, que finalement j'avais l'impression de la connaître un peu. Mais c'est vrai que je ne la connaissais pas physiquement, et donc je vais la découvrir, confronter la réalité donc à mon imaginaire.
Et en même temps, à votre fonction de sous-préfète, vous allez être en charge de beaucoup de dossiers, notamment, par exemple, les énergies renouvelables en ce qui concerne la transition énergétique.
Oui, alors quand je dis confier, bien sûr, les services de l'État sont nombreux à travailler ce sujet, mais le préfet a souhaité un rôle de coordination dans le département, de suivi plus particulier. C'est un sujet voilà, important au niveau national, qui a trouvé ses déclinaisons locales, c'est déjà le cas, le travail est déjà engagé, mais je poursuivrai bien sûr sur ce sujet ce qui a été fait. Le département, évidemment, a ses objectifs, et puis... On essaiera de lever aussi les obstacles quand il y en a pour aller vers une ambition locale, départementale.
Vous arrivez au début du mois de janvier et c'est la période de vœux. C'est une période que vous allez mettre à profit justement en contacter les élus locaux et les associations, les entreprises.
Et oui, le fait d'arriver au mois de janvier, au fond, avec les cérémonies de vœux, ça permet d'avoir des synthèses un petit peu toutes faites de ce qui s'est passé l'année précédente et puis des perspectives que les uns et les autres peuvent afficher. Donc, pour un sous-préfet, c'est important. Ça permet rapidement de comprendre dans quel territoire on est. Et évidemment, pour moi, le cœur des sujets à venir, ce sont toutes les visites de terrain, les visites d'élus, des acteurs économiques, associatifs que je vais faire pour m'imprégner du territoire et être opérationnel le plus rapidement possible.
Vous êtes une sous-préfète expérimentée, vous connaissez fort bien la préfectorale et vous avez beaucoup travaillé sur la ruralité.
Oui, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de départements dits ruraux. Je suis moi-même issue de la ruralité, ce qui ne m'empêche pas également d'apprécier les enjeux plus citadins, et notamment il y en a dans le département, ne serait-ce qu'à Manosque, avec les contrats de ville que je connais aussi. Mais c'est vrai que la ruralité, ce sont des thématiques ou des sujets ou des relations avec les élus que je pense connaître. En tout cas, j'espère que mon expérience servira sur ce poste à Fort-Calquier et pour l'arrondissement de Fort-Calquier.
Vous avez également des traits de personnalité très particuliers. Vous avez parlé d'humilité tout à l'heure en recevant les personnalités qui étaient présentes à votre dépôt de gerbe à Fort-Calquier.
Oui, alors parce que je pense qu'en effet, il faut être humble quand on arrive dans un endroit parce qu'on, a priori, on le connaît un peu moins que ceux qui y vivent. Donc, je pense qu'il faut savoir écouter. D'abord, ça ne signifie pas que l'on s'efface ou qu'on ne va pas affirmer des positions. L'humilité est quand même, en mon sens, une qualité avant d'être un défaut.
Dernière remarque, vous êtes libre d'y répondre ou pas sur votre portable qui est un outil de travail extrêmement important. Il y a une petite coccinelle. La bête à bon Dieu, c'est un porte-bonheur pour vous?
Écoutez, la petite coccinelle, je l'ai depuis peu de temps. Donc effectivement, j'ai décidé de la coller sur mon téléphone portable qui aujourd'hui ne nous quitte pas. Oui, je crois que la coccinelle est un beau symbole. L'avoir tout le temps avec moi, bon, finalement, c'est comme un petit porte-bonheur.
Eh bien, on vous souhaite tout le bonheur, justement. Bienvenue chez vous et chez nous, dans les Alpes de Haute-Provence.
Merci à vous, merci pour vos mots de bienvenue.
Assisteront les vœux du maire Daniel Spagnou.
Ce lundi, le complexe des Mares a accueilli un public nombreux pour assister à la cérémonie des vœux du maire. Daniel Spagnou a ouvert son intervention en remerciant d'abord son premier adjoint, Jean-Pierre Templier, le conseil municipal et aussi celui des jeunes. Il a également souligné l'étroite collaboration avec le préfet des Alpes de Haute-Provence et son aide à trouver des financements de l'État en saluant également sa personnalité d'homme de dialogue, de proximité et au service des maires. Des remerciements adressés ensuite au sénateur et à la présidente du département. Le maire de Sisteron a également insisté sur un dossier qui lui tient à cœur, la création du bac professionnel des métiers de la santé qui ferait suite aux classes jeunes sapeurs-pompiers du collège de la Motte du Caire et qui serait effectif à la rentrée scolaire. Le clip d'Alain Amouric, adapté par Pierre Garcia, enfant de Sisteron, a illustré en musique cette cérémonie. Au cœur de cette soirée, au micro de Chris Alessandri, écoutons Daniel Spagnou, puis Eliane Barreille, présidente du conseil départemental, le sénateur Jean-Yves Roux et aussi Jean-Claude Castel, maire de Corbières et président du SDIS-04, ainsi que quelques réactions dans le public.
C'est la même énergie que je puise en vous et que vous me donnez à chaque coin de rue. Merci à vous toutes et à vous tous. Je souhaite une bonne année à notre pays afin qu'il défende comme par le passé les idées de grandeur, de générosité, de liberté sur lesquelles son histoire repose tout entière. Bonne année à notre planète avec un peu moins de guerre, un peu moins de massacres, un peu plus de compréhension pour vous faire espérer un troisième millénaire plus humain. Bonne année à tous et à toutes et je vous remercie.
Daniel Spagnou, vous avez parlé des Sisteronais comme d'une véritable famille à vos côtés, toujours et depuis longtemps.
Ben oui, c'est normal. Quand on est maire depuis 40 ans, eh bien, on connaît tout le monde. J'ai marié les parents, j'ai marié les enfants. Maintenant, je marie les enfants des enfants. Donc, je fais partie de leur famille. Et eux, ils font partie de la mienne. Et j'ai bien vu quand j'ai eu mes problèmes de santé où j'ai été hospitalisé pendant un mois et demi. C'est fou, les centaines de messages que j'ai reçus. Justement, ces Sisteronais, on les sentait malheureux, on les sentait inquiets comme si j'étais un membre de leur famille. Voilà, et moi, je les considère comme faisant partie de ma famille.
Votre émotion, on la sent bien. Elle a été témoignée durant toute cette soirée. Qu'est-ce que vous éprouvez en sortant de scène ?
Ah ben moi, c'est formidable parce que moi, je suis quelqu'un qui aime les gens. Alors donc, quand j'ai une soirée comme ce soir, on m'avait dit attention avec la crise, avec les gens malades, avec le fait que la poste n'ait pas distribué toutes les invitations, vous aurez beaucoup moins de monde. Mais non, il y en avait encore plus que d'habitude. Donc oui, je suis très ému, très content. C'est une belle récompense pour moi, surtout que ça, l'année 2022 a été une année horrible pour ma santé déjà. Bon, en même temps, j'ai eu cette immense joie aussi. Vous savez, dans une vie, il y a toujours un moment de joie, un moment de peine. D'être arrière-grand-père d'un petit Mathéo qui m'apporte tellement de bonheur.
Qu'est-ce que vous souhaitez pour Sisteron pour 2023 ?
Écoutez, moi, pour Sisteron, je souhaite bien sûr qu'on soit toujours cette grande famille, qu'on continue à s'aimer les uns et les autres. Puis je souhaite aussi que les projets sur lesquels nous avons beaucoup travaillé ces dernières années puissent bien sûr se réaliser malgré la crise. Enfin, cette crise, elle est là quand même. Et puis qu'il y ait moins de malheureux, parce que moi, ça me crève le cœur quand je vois de plus en plus de personnes qui viennent au bureau d'aide sociale pour demander de l'aide. Il y a des familles qui n'arrivent plus à manger à leur faim. Heureusement qu'il y a les Restos du Cœur, heureusement qu'il y a le Bureau d'aide sociale, heureusement qu'il y a un tas d'associations qui œuvrent, parce qu'autrement, ce serait une catastrophe. Donc je souhaite bien sûr qu'il y ait de moins en moins de gens en difficulté, qu'au contraire, on soit tous heureux. Voilà.
Les réactions à chaud de la soirée ?
Très belle soirée. Moi, j'ai retenu que cette année, on allait fêter quand même les 40 ans de poste de notre maire. Et c'est quand même un beau parcours. Il faut le saluer. C'est vrai que Sisteron est une belle ville qui a évolué. Et où il fait bon vivre, autant pour les personnes âgées que les gens actifs et les enfants. Et il faut préserver cette ville pour la jeunesse à venir. Parce que tout le monde vit en bonne entente. Aussi bien les jeunes que les personnes justement âgées, il faut préserver tout ça. Ce sont des valeurs qui se perdent dans notre société et nous avons un maire qui nous a fait prendre conscience que c'était quelque chose de précieux.
Eh bien pour moi, les vœux du maire de Sisteron sont un peu comme une madeleine de Proust. C'est-à-dire c'est un plaisir sans cesse renouvelé et chaque année on vient y goûter avec délectation.
Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé durant cette allocution ?
Mais c'est qu'il y a toujours une ambition d'aller de l'avant. Et ça, je trouve ça très intéressant, malgré 40 ans de mandat. Et je trouve que c'est assez remarquable.
Eliane Barry, votre réaction après ce discours de monsieur le maire émouvant et cette belle soirée?
Ben, comme toujours, beaucoup de monde qui assiste aux vœux de Sisteron. Un moment fort, un moment important, puisque Daniel, il a sa ville chevillée au corps et il fait partager son amour de la ville.
Daniel Spagnou a souligné à maintes reprises votre présence sur bon nombre d'actions, Eliane Barry.
J'essaie d'être très présente. Je pense que la solidarité territoriale, c'est un élément important du département et c'est ce que je développe et que je m'emploie à développer au travers de la proximité que je mets dans tous mes déplacements.
Jean-Yves Houx, vous venez d'assister au discours de Daniel Spagnou. Quelles sont vos réactions ?
C'est un discours qui est très clair, très sympathique et très fraternel et chaleureux, comme chaque année pour Sisteron, où il associe la population, toutes les personnes présentes, comme le président du SDIS ici qui est là. Donc je trouve que c'est un discours qui est volontaire et qui est dynamique, comme Daniel Spagnou sait faire.
Jean-Claude Castel, vous êtes à côté de Jean-Yves Roux. Qu'est-ce que vous pensez de cette soirée? Qu'est-ce que vous pensez des interventions de Daniel Spagnou?
Je pense que c'est un discours qui est plein d'émotions et qui lui fait prendre conscience de ses 40 ans au service des Sisteronnais. Parce qu'on n'est pas toujours d'accord avec lui, mais il faut reconnaître qu'un investissement de 40 ans, il n'y a pas grand monde qui est capable de le faire. Et pour ça, je lui tire ma révérence.
Sisteron, mon enfance, a baigné dans ton calme. Tu as toujours gardé l'empreinte du passé. Tes ruelles étroites ont conservé leur âme. Quelquefois le soleil y pénètre étonné. Que je garde en moi de ces langues sauvages. Que je garde sinon la dureté des terres. Comme un âpre breuvage, tu m'endormir en haut d'un plateau solitaire. Mes yeux jusqu'au dernier sommeil,
La Brianne, un maire engagé pour son village et sa région.
Élu en 2014 dans son village de plus de 1100 habitants, Jean-Charles Borghini est également conseiller régional depuis 2021. Une dualité de mandats qu'il conçoit comme complémentaires, mais très différents, il en parle dans un instant. Ces mandats, il les a évoqués lors de la traditionnelle cérémonie des vœux à la population, devant ses concitoyens et plusieurs personnalités, le sénateur Jean-Yves Roux, Eliane Barret, présidente du département, David Géant, vice-président de la région, Daniel Spagnou, qui préside l'association des maires du 04, ainsi que plusieurs élus du territoire. Présents également Stéphane Figuière, qui préside la chambre de métier du 04, ou encore Olivier Girard pour le Crédit Agricole et le canal de Manosque. Dans la salle également, la famille Borghini, dont Ernest, le père du maire actuel, qui fut également à la tête du village pendant deux mandats. André Piche, un autre ancien maire de la Brianne, était présent lui aussi. Déroulant les événements de 2022 entre des festivités populaires, des travaux et l'incendie de Niozel, puis les projets 2023 dont un centre de santé accueillant trois médecins généralistes, Jean-Charles Borghini n'a pas manqué en ce 7 janvier, jour anniversaire de l'attentat de Charlie Hebdo, de rappeler son attachement à la République. Remerciant son équipe élue et technique, il a aussi distingué la gendarmerie de son territoire dans une soirée qu'une chanteuse a joliment agrémentée. Jean-Charles Borghini, vous êtes maire de la Brianne et également conseiller régional. Vous avez une appartenance politique particulière, vous êtes encarté.
Effectivement, je suis encarté, comme l'on dit, à Renaissance, mais à notre échelle locale et régionale.
Vous avez fait votre cérémonie des vœux le 7 janvier ici à La Brianne et vous n'avez pas manqué de rappeler que le 7 janvier, c'était la tuerie de Charlie Hebdo.
Malheureusement, j'ai dû le dire parce que effectivement, ça fait 8 ans, jour pour jour, qu'il y a eu cette tuerie. On ne doit pas les oublier, on ne doit pas oublier, et en particulier la liberté de la presse.
Vous avez également invité une musicienne à chanter Gainsbourg. Là aussi, c'est amené de la culture et une respiration particulière à cette cérémonie.
Effectivement, il y avait au début des vœux et à la fin des vœux une respiration musicale. C'est une dame qui travaille sur la Brianne, qui habite à la Brianne, Madame Laurence Pomero, qui est musicienne, qui donnait des cours de musique. Et je lui ai proposé de venir à mes vœux. Elle venait avant, bien sûr, mais en jouant du piano et en chantant, elle l'a accepté. Et je crois que ça a été un bon moment, au départ et à la fin, par rapport à ce brin d'harmonie et aussi de vivre ensemble.
Pour ce qui est de 2023, comment vous voyez l'avenir pour votre commune ?
Ben, nous sommes en train de préparer le budget, avec toutes les difficultés que cela engendre. Je ne dépenserai par définition pas l'argent que je n'ai pas. Comme je l'ai dit, je n'augmenterai pas les impôts pour la 10e année consécutive. Je vais le proposer au conseil municipal. On a beaucoup de projets, comme vous l'avez vu, mais on doit faire face, ben, comme les ménages, comme tout un chacun, à l'augmentation des prix, que ce soit le gasoil, que ce soit l'électricité ou les matières premières.
Et puis en 2022, mais les années précédentes aussi, il y a beaucoup d'activités, de festivités notamment à la Brianne.
On a la chance d'avoir depuis de très très nombreuses années un fort tissu associatif. Il y a plus de 25 associations sur la Brianne, des associations sportives, culturelles, d'entraide. Et effectivement, il y a beaucoup de manifestations. Ben, il y a eu la première course de caisse à savon qui a été un véritable succès, la fête votive, le dernier week-end de l'année. Il y a eu le parc des Tilleuls, la foire aux paysannes qui est maintenant ancrée dans le paysage, j'allais dire départemental, le jeudi de l'Ascension, les vides-greniers, l'accueil des nouveaux arrivants, on accompagne au mieux toutes les associations briennaises.
Jean-Charles Borghini, vous êtes également élu à la région. Est-ce que c'est un mandat qui est complémentaire ou concurrentiel avec celui de maire ?
Alors, comme l'on dit, le mandat de maire, c'est le plus beau des mandats, hein, quand on en parle à tous les anciens maires et ceux qui ont une carrière politique beaucoup, beaucoup plus longue que moi. Mais j'avoue que le mandat de conseiller régional au niveau de notre sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est un mandat complémentaire, c'est un beau mandat. Et j'ai dû mettre entre parenthèses ma carrière professionnelle en demandant un détachement pour mandat électif, en ayant donc ce mandat et celui de maire qui m'honore et m'oblige.
Alors on parle à l'échelle d'une mairie de petits milliers d'euros, mais par contre à la région ce sont des milliards d'euros. Là aussi il y a quand même une grosse différence.
Je vous l'accorde aisément, il y a une différence très importante. Le budget de la commune est d'un peu plus d'un million d'euros et en fonctionnement et à peu près pareil en investissement sur une année. Et le budget régional, c'est plusieurs milliards d'euros avec de l'argent qui vient de l'État, de l'argent qui vient de l'Europe. Mais je crois qu'il y avait ce soir aussi David Jiang, qui est vice-président et maire de Fort-Calquier. Mais très sincèrement, on garde les pieds sur terre. Alors ce sont des chiffres très très important, mais nous sommes quand même 5 millions d'habitants. Il y a quand même beaucoup de projets fort ambitieux menés par le président Renaud Muselier.
Valbuèche-Méouge, le choix d'une économie durable.
Située à l'extrémité sud-ouest des Hautes-Alpes, Valbuèche-Méouge comprend les communes fusionnées de Ribier, Antonave et Châteauneuf-de-Chavre. Membre de la communauté de communes Sisteronnet-Buèche, elle s'étend le long du Buèche, bordant également le département des Alpes de Haute-Provence, un territoire représentant un véritable trait d'union entre Sisteron, Laragne et les gorges de la Méouge dans le parc naturel régional des Baronnies Provençales. Dernièrement, face à la hausse des coûts des énergies, le maire de la commune, Gérard Nicolas, et son conseil municipal passent à l'action en mettant en place diverses mesures afin de réaliser un maximum d'économies dans plusieurs domaines liés au quotidien du village et aux projets en cours. Gérard Nicolas répond aux questions de Chris Alessandri.
Gérard Nicolas, réagir face à la hausse des coûts des énergies, c'est quelque chose que vous avez mis en place tout de suite et ça n'a pas été facile sans doute.
C'est jamais facile parce que trouver des économies pour compenser la hausse des énergies, ça demande de passer tous les frais généraux au peigne fin. puisque le coût des énergies, en gros, dans les communes, la facture va être multipliée par 2,5, voire par 3 à partir de 2023. Par exemple, nous, les bâtiments et l'éclairage public nous coûtaient 45-50 000 euros à l'année. On risque de passer entre 150 et 200 000 euros à l'année. Donc il faut trouver les solutions, comment réduire nos consommations et comment financer malgré tout le surplus qui va nous rester. Puisque réduire les consommations ne suffira pas pour retomber au coût initial de 2021 ou 2022. Donc on agit sur tous les tableaux possibles. On a déjà transformé pas mal d'éclairages publics dans les rues en LED. Par rapport aux anciennes lampes, ça nous divise déjà en gros la consommation par 7 ou par 8. Ensuite, on a pris la décision en conseil municipal la semaine dernière d'éteindre tous les éclairages publics de 23h à 5h du matin. On est en train de regarder pour changer tous les éclairages des locaux, où là on a très peu de LED, pour passer tout en LED. Donc les éclairages des locaux, ça nous coûte, ce qu'on pourrait dire à l'ancien tarif, au tarif 2021-2022, dans les 15 000 euros par an. Si on passe en LED, ça va nous coûter 3-4 000 euros et ça nous fait investir 24 000 euros de LED. Donc ce qui nous fait un retour sur investissement sur 5-6 ans. À ça s'ajoute l'économie, c'est que les anciennes lampes, on en change régulièrement parce qu'elles grillent facilement, que les LED sont faits pour durer 15, 20, 25 ans.
Il faut s'y faire face aux réactions des administrés. Il y a le conseil municipal en même temps qui est avec vous dans cette application. Quelles sont les réactions? Parce que quand on éteint, par exemple, toute l'enceinte même de la périphérie du village, quelles sont les réactions?
Alors, vous avez des réactions très différentes. Vous avez les gens qui sont proches de l'écologie, qui disent c'est très bien pour l'écologie, puisqu'il y a tout un tas d'activités nocturnes, les chauves-souris, et ainsi de suite, qui vont, elles, mieux se porter. Globalement, tout le monde est écologiste et personne ne veut tuer la nature. Donc, et en plus, ça fait moins tourner les centrales nucléaires et tout et tout. Donc côté écologie, le bilan est favorable à 100%. Après, il y a un peu les craintes des gens qui ont peur la nuit. Et ça, la peur la nuit, c'est comme la peur du vide et ainsi de suite. Hein. C'est une peur un peu irraisonnée, mais on ne peut rien faire contre. Hein. Il y a les personnes seules, chez qui forcément, quand c'est nuit, naturellement, on a plus peur que si c'est éclairé. Il y a des personnes qui sortent un peu la nuit parce qu'ils ont du mal à dormir et autres, qui oseront moins aller balader dans la rue à 2h du matin pour aller fumer une cigarette et prendre l'air. Donc c'est un peu partagé. Par contre, comme tout le monde sait que l'énergie va terriblement augmenter, la facture va être très très lourde, tout le monde comprend aussi que laisser éclairer tout un tas de lampes à 3h du matin, c'est quand même du gaspillage.
Vous avez même fait un choix sur des opérations auxquelles on est habitué dans les villes, dans les villages, ce sont les vœux.
Oui, on a supprimé parce que nous on faisait 3 soirées, puisqu'on est une commune nouvelle avec 3 communes. Donc on faisait les vœux à 3 reprises. Sur 3 soirées différentes. Donc ça, mine de rien, chaque fois, il y a un buffet avec des boissons et ainsi de suite. Ça nous coûtait en gros 3000 euros. Bon, ben 3000 euros par les temps qui courent, c'est 3000 euros. Et puis à ça, s'ajoute le risque Covid et tout ce qui s'ensuit avec, parce que les vœux, c'est la bise à tout le monde et ainsi de suite, parce que c'est le grand moment de retrouvailles après les fêtes. Et côté Covid, c'est quand même pas idéal non plus, hein. Donc entre l'économie et le risque Covid, on a fait le choix de supprimer les soirées.
Et le projet de rénovation du plan d'eau, où en est-il ?
Il est en cours, donc là c'est un projet qui est difficile à boucler. Au départ, on est obligé de rénover le plan d'eau puisque pour l'instant on a un système de chlore pour que l'eau reste propre et belle. L'ARS au niveau national a pondu une règle pour interdire le chlore. Alors le chlore est autorisé dans l'eau potable que vous buvez au robinet, mais qui n'est pas autorisé au plan d'eau, à un moment où on nous demande de tout désinfecter avec la Covid. Bon, en fait, toujours est-il que, vu de Paris, on ne peut plus mettre de chlore dans un plan d'eau à Ribier et ailleurs dans les plans d'eau. Donc il reste 2 solutions, soit un système de filtration, comme a fait Sisteron ou Germanette, mais il faut des moteurs électriques puissants et une grosse filtration, ou un système de filtration biologique. Donc c'est l'eau qui est emmenée dans un bassin avec des plantes et là il y a une filtration naturelle qui se fait. L'avantage c'est qu'on a une faible consommation d'énergie et c'est un système naturel et ça va très bien avec notre label Territoire engagé pour la nature, puisqu'on est la seule commune des Hautes-Alpes à avoir ce label. Ce label nous demande aussi de tout faire pour respecter la nature. Le problème, c'est qu'on était parti sur une enveloppe de 1,5 million de travaux, et le cabinet de maître d'œuvre nous a fait un beau projet, mais à 2,5 millions. Et il est hors de question de mettre 2,5 millions dans un plan d'eau qui est ouvert 7 semaines par an pour une commune de 1 400 habitants. C'est un investissement qui serait démesuré. Donc on est en train de retravailler le projet pour revenir dans l'enveloppe de 1,5 millions. On y est presque. Et de là, on va partir à la chasse aux subventions.
Nous sommes toujours sur ces incertitudes tarifaires. Est-ce que ça vous permet quand même d'arriver à vous projeter ou alors vous partez un tout petit peu dans le, pas dans le doute, mais dans le questionnement?
Oh non, non, on est presque au bout là. On a supprimé tout un tas de fournitures haut de gamme qu'avait prévu le cabinet. Ils avaient un peu confondu Ribier et Chamonix ou Saint-Tropez, donc on est revenu à l'oreille du bûche. Hein. Qu'est-ce que demandent les gens? Ils demandent d'avoir un plan d'eau à Ribier qui fonctionne, mais ils ne demandent pas des installations un peu luxueuses, surconfortables et tout et tout. Ils veulent un plan d'eau pratique, de l'eau conforme et des billets d'entrée à des prix très raisonnables pour les familles. Parce que là, c'est pareil, on aurait pu dire on se lance dans un gros projet, mais on augmente le prix d'entrée par 2 ou par 3 ou par 4. Mais à ce moment-là, on privait les familles aux petits revenus du plan d'eau. Et c'est pas du tout notre objectif.
Vous êtes un élu au contact des personnes, vous êtes souvent sur le terrain. Pour définir l'esprit à l'heure actuelle, comment le définir? Qu'est-ce que vous en tirez comme impression sur le moral, sur les projections peut-être sur l'avenir?
Ah, je trouve qu'il y a eu un changement depuis... Ça a commencé, changement avec les gilets jaunes. Après, il y a eu la Covid. Globalement, le moral est peut-être moins bon qu'avant tous ces événements. Les gens sont plus inquiets. Tout le monde sait que la France a un endettement très important, donc en disant qu'est-ce que ça va devenir. Au niveau local, l'emploi se porte plutôt bien quand même. Hein. Aussi grâce à la Comcom qui fait quand même beaucoup de choses pour développer ces zones artisanales, aider les entreprises, et ainsi de suite. Donc, malgré tout, on organise beaucoup d'animations sur Ribier. Il y a un an, il y avait moins de monde. Et là, c'est en train de revenir. On vient de faire quelques soirées où on a fait la salle des fêtes pleine, c'est-à-dire 90-100 personnes. Chez les élus, par contre, il y a de l'inquiétude par rapport à la hausse des énergies.
De jeunes auprès des seniors.
Ambre et Corentin sont en service civique à l'association Unicité à Manosque. Avec leurs camarades, ils effectuent une mission citoyenne et solidaire et proposent des activités et services à des personnes âgées souffrant souvent d'isolement. Ce dispositif gratuit pour toute personne retraitée est bien plus qu'une compagnie, ce qui est déjà appréciable. Les jeunes proposent par exemple un coup de pouce numérique à des seniors pour qui même le téléphone reste lointain, sans parler d'informatique ou d'Internet. Ils répondent aussi aux envies des aînés, jeux de société, sorties, balades, rencontres ou simples conversations. Le réseau de confiance et solidarité senior est un lien intergénérationnel personnalisé et original dans les deux sens. Car pour ces jeunes qui sont âgés de 16 à 25 ans, le service civique donne un sens à leur quotidien et avec une rétribution assez modeste mais réelle, leur permet de travailler en équipe dans une démarche solidaire et citoyenne. On peut raisonnablement imaginer que plusieurs d'entre eux trouveront leur voie dans le secteur social. Réseau de confiance a également un local situé au 320 avenue du docteur Bernard Foussier dans le quartier de l'hôpital et de l'école internationale. Ils peuvent y recevoir des personnes ou des groupes dans une ambiance conviviale. Ambre et Corentin précisent leur démarche et leur motivation. Corentin et Ambre, vous êtes en service civique à Unicité à Manosque. Première question, Corentin, qu'est-ce que c'est que Unicité ?
Unicité, c'est une association qui a été créée dans les années 90 par trois jeunes et qui s'est développée du coup avec le temps dans toute la France et qui maintenant a fusionné avec le concept de service civique qui a été mis en place par le gouvernement et qui du coup propose à des jeunes de 16 à 25 ans dans toute la France, de faire une mission pendant environ 9 mois. Notre mission, c'est de faire du coup de la solidarité senior et du réseau de confiance. Ça consiste à venir chez les personnes et passer du bon temps avec eux, prendre le thé, jouer à des jeux de société, et également à faire du coup des activités dans notre local où on va proposer des, des activités, des jeux de société, du coup de pouce numérique, des rencontres entre plusieurs seniors et des activités avec d'autres associations sur Manosque comme la Fourmi Gourmande et le CCS.
Ambre, sur Manosque, comment ça se passe les activités que vous proposez ?
Personnellement, je suis en contact avec la Fourmi Gourmande qui est une épicerie solidaire. Donc on s'y rend pour un atelier tricot, donc avec des personnes âgées, c'est eux qui l'organisent et on les aide. Et on est également en train de créer un atelier pour jouer aux jeux de société, recevoir des personnes. Donc c'est purement notre démarche et on leur propose notre aide. Il y a également des visites dans des EHPAD par deux binômes qui viennent rendre visite, apporter un côté chaleureux, discuter, sortir un peu du cadre médical des EHPAD. Il y a le Grenier Numérique, qui est une association qui propose des cours sur le numérique pour mieux comprendre, expliquer les emails. On propose notre aide à des associations comme le CCAS. Donc on les aide quand ils font des collectes alimentaires, des distributions de colis de Noël.
Est-ce que ce sont des services gratuits que vous offrez ?
Totalement. C'est totalement gratuit, c'est sur base de volontariat. Personne n'a rien à débourser, c'est purement bénévole.
On a compris également que c'est une manière de faire du lien intergénérationnel, Corentin.
Oui, notre but, c'est vraiment de créer cette ambiance d'échange où on va essayer d'apporter de l'énergie, de la chaleur à ces personnes. Et ces personnes-là, elles vont aussi beaucoup nous apporter à nous. Elles ont beaucoup d'expérience, beaucoup de choses à partager, de choses à nous apprendre. Et c'est sur la base donc, de cet échange qu'on va réussir à faire, on va baser nos activités et nos rencontres avec les personnes.
Corentin, quel est votre âge, quel est votre profil et pourquoi avoir choisi ce service civique à Unicité ?
J'ai 19 ans et je suis un étudiant en informatique qui fait une année de césure. Et j'ai décidé pendant cette année de faire quelque chose qui serait utile, quelque chose qui me permettrait moi de ne pas rester, de ne pas stagner dans cette année. Donc du coup, j'ai découvert le service civique et j'ai vu cette mission qui proposait de faire du social. Et ça m'a beaucoup intéressé de partir sur quelque chose qui était beaucoup plus intéressant pour moi, personnellement, pour une année.
Qu'est-ce que ça vous apporte, justement, des contacts ?
Ça apporte des contacts, ça apporte de l'expérience aussi, dans des milieux auxquels je suis peu habitué. Le milieu de l'informatique n'est pas un milieu très social, donc partir sur quelque chose, justement, qui était quasiment que du contact humain, de la communication, ça m'apporte beaucoup, et c'est quelque chose que je n'ai pas eu beaucoup dans mes études. Et le service civique, en plus, me propose beaucoup de formation et beaucoup d'aide pour mon projet d'avenir, ce qui m'intéresse beaucoup.
Même question pour vous, Ambre. Pourquoi ce service civique et qui êtes-vous ?
Du coup, j'ai 21 ans. Après être sortie du lycée, j'ai décidé de faire jeune fille au pair en Allemagne. Donc, je travaillais avec des enfants pendant un an. Ensuite, j'ai voyagé pendant plusieurs mois aussi et je me suis lancée... ce qui manque cruellement, c'est de l'expérience professionnelle, parce que les études, c'est pas un milieu qui m'intéresse énormément. Et j'ai choisi cette mission-là, pour sa proximité, premièrement, et aussi car le milieu du social, c'est un milieu qui pourrait m'intéresser pour le travail. Et les projets d'avenir, la projection professionnelle, ça fait peur quand on est jeune, quand on sort du lycée, qu'on n'a jamais vraiment travaillé. Et justement, c'est un cadre très bienveillant qui me permet de découvrir le travail en équipe, le contact avec les autres, le travail presque, je dirais pas médical parce que c'est pas du tout ce qu'on fait, mais avec des profils de personnes plus en difficulté. Donc ça apporte une certaine sensibilité. On crée beaucoup de projets, donc c'est beaucoup de motivation personnelle, d'initiative. Donc je me découvre plein de capacités dans le milieu professionnel et comment les appliquer. Que j'avais pas avant.
Corentin, si on veut vous contacter, comment est-ce que ça se passe ?
Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous appeler au 09 73 19 93 54 ou par mail à volontaire.uc.rdc@gmail.com. Et vous pouvez également venir nous rencontrer tous les jours du mardi au vendredi au 320 avenue Docteur Bernard Foussier.
MJC de Manosque, la capsule met le cap sur 2023.
La scène des musiques actuelles de Manosque a concocté une belle programmation pour démarrer l'année en rythme et curiosité. Des concerts, bien sûr, et de styles bien différents, mais aussi des ateliers, une expo photo des prestations musicales qui ont eu lieu dans les murs de la MJC que nous vous présenterons la semaine prochaine. Le lieu créé en 2021 trouve sa place auprès du public, notamment les jeunes, grâce à une approche dynamique et actuelle. Et jusqu'en avril, c'est aussi le rock, la chanson italienne ou encore le jazz manouche et le gospel qui s'invitent à la fête, de quoi élargir les univers musicaux des spectateurs. Je vous propose d'écouter Alice Jean qui gère la capsule à propos du programme de ce début d'année. Alice Jean, la MJC de Manosque est prête pour la nouvelle saison culturelle.
Oui, tout à fait. On est prêt avec une dizaine de concerts à vous faire découvrir à partir du mois de janvier. Au programme, une programmation plutôt rock cette année. On a souhaité mettre l'accent sur des groupes phares qui ont marqué un petit peu la culture rock des années 90-2000. Donc on reçoit en janvier les Ramoneurs de Menhir, qui est un groupe punk breton. Et on va aussi accueillir Y-Star, qui est un groupe rock marseillais. Donc c'est un petit peu une programmation aussi en écho avec des groupes qui viennent de toute la France.
On peut dire que vous retournez à des horizons et origines rock'n'roll ?
Oui, on a souhaité donner l'accent sur cette programmation pour retrouver aussi un public qui revient petit à petit dans les salles de concert et renouer avec ce public et cette ambiance festive qui nous manquait.
La saison démarre le 19 avec Chavaganza.
Chavaganza, qui est un trio qui vient de Gap et qu'on reçoit donc le jeudi 19 janvier dans la petite salle Jean Le Bleu, qui va ouvrir cette saison, donc un trio jazz manouche qui reprend tout le répertoire influencé par la musique jazz Nouvelle-Orléans.
Et puis un temps fort également, c'est la fiesta des lycées.
Oui, comme chaque année, on reçoit les lycéens de Félix Esclangon pour une soirée qu'ils organisent, qu'ils sonorisent, puis ils vont jouer sur scène. Donc il y a une trentaine d'élèves qui vont se succéder pour jouer leur répertoire, soit de composition, soit de reprise qu'ils auront travaillé en cours avec le professeur.
Cette année également, une exposition photo dans le hall de la MJC avec tout simplement des artistes qui sont passés l'année dernière dans votre programmation.
Oui, alors des artistes qui sont passés depuis septembre 2021 à la capsule, donc depuis l'ouverture de la nouvelle salle. Pour ça, on a des bénévoles du club photo qui ont pris tous ces moments-là, tous les artistes qui sont passés, plus de 200. C'est une belle exposition qui ouvre l'année et qui fait écho à tous les concerts et à tous ceux qui vont arriver aussi.
Vous attendez un public qui est plutôt fidèle sur vos manifestations ?
Oui, tout à fait. On attend un public fidèle. On attend aussi un public jeune parce qu'on a de nouveau des groupes qui viennent répéter dans le studio de répétition. On a un nouveau public qui arrive. Et après le Covid, c'est vrai qu'il a fallu redémarrer. Et là, on a une attente aussi sur ce nouveau public.
Vous avez un coup de cœur, Alice, pour cette programmation ? Ou plusieurs ?
Alors, j'ai un coup de cœur, oui, sur une date qui aura lieu le 2 mars, qui est un trio qui s'appelle Alberi Sonori, un trio de jeunes musiciens italiens qui s'inspirent des tarentelles italiennes, de la musique traditionnelle du sud de l'Italie.
Musique acoustique, donc.
Musique acoustique. Et puis, mon deuxième coup de cœur, ça sera la soirée du 18 mars, où on accueillera l'octet qui s'appelle Old School Funky Family, donc plutôt un jazz band. Et puis, en deuxième partie de soirée, Dombrance, qui est un DJ techno-disco. Donc cette soirée est programmée pour faire danser les gens.
Il y a un bel éclectisme quand même si c'est marqué rock'n'roll.
Oui, tout à fait. On a souhaité toujours créer du relief dans cette programmation, accueillir des artistes de tous les horizons, que ce soit au niveau des esthétiques et puis de leur localisation. On a des artistes à la fois locaux, régionaux, nationaux. Ça crée beaucoup de relief sur cette programmation.
Pour réserver et pour assister au concert, comment ça se passe ?
Alors, vous pouvez réserver vos places sur le site internet de la MJC, mjc-manosque.com, et il y a tous les liens vers les billetteries. On est également présents sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Alors, ce qui est intéressant cette année, c'est de prendre ses places en avance, car en pré-vente, ce sera toujours moins cher que sur place.
C'est la fin de ce magazine. Merci François.
Merci Louis pour la régie et à la semaine prochaine.